RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui dans un lieu exceptionnel à 2600 mètres d'altitude au cœur des hauts plateaux éthiopiens. C'est là que 11 églises ont été creusées dans la roche de Lalibela. Des églises qui figurent parmi les 12 premiers sites à être classés par l'UNESCO au patrimoine mondial il y a 50 ans en 1978. Elles ont beau avoir résisté depuis 800 ans, ces églises sont fragiles et subissent les assauts du temps et de la météo. Il y a eu plusieurs tentatives de conservation ou de restauration. La dernière en date consiste à poser des toits au-dessus de certaines d'entre elles. Des toits qui font polémique. Début octobre, certains habitants de Lalibela ont manifesté pour demander leur retrait. Mais pour cela, il faut de l'argent. Le premier ministre éthiopien en a fait la demande au président français fin octobre. Une bonne manière pour Paris de mettre en avant l'aspect culturel de sa politique africaine. Car ce patrimoine de l'humanité est vivant. Les populations continuent d'y pratiquer le culte et aujourd'hui encore, des églises sont creusées à même le rocher en Éthiopie. Lalibela et ses petites sœurs, un patrimoine vivant à protéger, c'est un grand reportage de Vincent Dublanche et Nathalie Tissot, mis en onde par Pierre Chaffangeon.
On arrive.
On est presque.
Pour la découvrir, il faut le mériter. L'église Medanalem, sauveur du monde, est perchée au sommet d'un pic rocheux escarpé. Elle domine la plaine d'Abiadi, au Tigray, dans l'extrême nord de l'Éthiopie. Nous pénétrons dans le lieu sacré, bien que pas encore religieusement consacré. Un homme y sculpte la paroi, déjà bien avancée. Il a de la poussière plein les yeux. Ses outils ? Un marteau, un tournevis en guise de burin. Rudimentaire, mais efficace, même si cela fait quand même 3 ans que le père Gebre Giorgis, serviteur de Saint-Georges en Amérique, y travaille. La communauté du village de Warq Amba a fait appel à lui car il a l'expérience.
J'ai vu beaucoup d'églises creusées et après j'ai commencé à creuser une grotte pour les animaux, les chèvres et poules. Et donc je me suis dit que c'était possible finalement de construire une église. Avant, je ne pensais pas en être capable, ni même qu'un homme pouvait avoir construit de telles églises.
L'édifice ressemble à une grotte, on y pénètre via 2 portes taillées. C'est par elles que les ouvriers ont commencé à creuser, à déblayer puis à sculpter l'intérieur. L'argent provient d'un homme du village qui a réussi à la capitale. Il fallait remplacer l'ancienne église excavée devenue trop petite pour accueillir les fidèles chrétiens de l'église copte orthodoxe d'Éthiopie. Le père Gebre Giorgis dirige le chantier. Il est mi-artisan, mi-prêtre.
Je suis prêtre, donc d'abord je fais ça pour mon salut dans l'au-delà. Et la seconde chose, c'est que je réalise une sorte de monument, un patrimoine qui va rester, on se souviendra de mon nom. Et puis, il y aura une arche d'alliance, le peuple va venir y prier, donc c'est une grande réalisation.
Alors c'est comme ça qu'on peut identifier de loin la présence d'une nouvelle église.
Le chercheur Michael Gevers a trouvé trace d'une trentaine d'églises troglodytes dans cette région du Tigray. Il y a 140 églises creusées dans la roche, recensées dans tout le pays par l'autorité éthiopienne du patrimoine. Nous voilà à quelques dizaines de kilomètres à l'est, dans le massif touristique du Géralta. Il est célèbre pour ses églises perchées, où mieux vaut être bon escaladeur pour y accéder. Heureusement, nous restons dans la plaine. 4 murs, un toit, nous sommes face à une église où la végétation a repris ses droits. Un bâtiment classique mais désuet pour cette communauté villageoise qui l'a trouvée trop étroite. À quelques dizaines de mètres, un monticule de gravats, derrière, une nouvelle église est en train d'être creusée.
Je suis arrivé la première fois, il y avait que cette partie-là. Ils étaient en train de
faire ces colonnes-là, ou ces piliers. Donc, c'était il y a 3 ans déjà. Et depuis 3 ans, ils ont avancé par une nef. Et ça, c'est pas encore terminé, mais on voit qu'ils commencent par là. Voilà une arche. Donc là-bas, on aura encore un pilier. Et puis, ils vont continuer à creuser, encore 3 mètres à peu près, dans ce sens, pour arriver
à la fin de la nef du sud.
Là aussi, un riche originaire du coin finance, c'est Monsieur Woldaï. Il vit à Mekele, la capitale régionale. Monsieur Agous le représente et supervise les travaux.
Au départ, la mère de Woldaï a rêvé qu'elle devait construire une église. Et puis un jour, son fils est venu la voir alors qu'elle prenait de l'eau bénite. Et un ermite a dit à Woldaï, « Tu dois construire l'église ici. » Et moi-même, j'ai vu un ange descendre sur cette butte là-bas et entrer dedans. C'était la nuit.
Il fallait aussi s'assurer du soutien des autorités dans ce pays très bureaucratique. Et puis prendre en compte le paramètre géologique. La roche doit être facile à creuser, mais suffisamment solide dans le même temps. Facile à creuser ? Pas tant que ça, témoigne le père Gebre Giorgis.
C'est très difficile, on travaille sans plan, à l'aveugle, on fait avec notre mémoire, on tâtonne, et c'est un travail pour lequel tu as besoin de force. Tu as des éclats qui te rentrent dans les yeux et de la poussière qui recouvre ta tête.
L'artisan prêtre négocie la construction d'un quatrième lieu de culte dans la région, mais il ne fera cette fois que superviser les travaux. L'historien canadien du Moyen-Âge, Michael Gavers, vient en Éthiopie depuis 1982. Il voit deux raisons à la poursuite de cette tradition des églises excavées.
Pour un Éthiopien, il n'y a pas de différence entre une église construite et une église creusée. Il y a des considérations pratiques. On dit que c'est moins cher de creuser dans le roc que de construire. Parce que pour construire, il faut le ciment, il faut surtout le bois pour le toit. Et puis, après maximum 3 générations, l'église construite a besoin de réparation. Et ils se rendent compte qu'une église construite dans le rocher n'en a pas besoin. Ils disent, nous creusons cette église pour nos enfants et il n'y aura pas de réparation d'ici 1000 ans. C'est peut-être pas tout à fait vrai, mais c'est pas loin de ça.
Et puis, il y a d'autres raisons avancées parfois par les constructeurs.
Il y a un prêtre qui a creusé déjà 5 églises, toutes liées l'une de l'autre, influencées par l'idée de la Libella, et il appelle à la nouvelle la Libella. Son intention, c'est de montrer au monde que ceux qui ont creusé la Libella étaient des Éthiopiens et pas des ouvriers qui sont venus d'ailleurs. Parce que souvent on dit que c'est pas possible pour les Éthiopiens de faire une chose pareille.
Pourtant, la plupart des creuseurs d'églises ne sont jamais allés sur le site classé par l'UNESCO il y a 50 ans. Ils sont des dizaines de milliers à visiter les lieux chaque année selon le gouvernement éthiopien. La Libella est polyglotte. Moyennant $50 américains, on peut se plonger dans les méandres de ces 11 églises et tunnels ou tranchées qui les relient parfois. La Libella est surnommée Jérusalem de l'Afrique tant sa disposition spatiale reprend celle de la Terre Sainte des religions monothéistes. Sous le soleil qui cogne après la saison des pluies, des ouvriers déblayent un monticule de terre sous l'œil avisé de chercheurs français et éthiopiens. Ils sont à quelques mètres du chemin touristique qui serpente entre les édifices religieux sculptés dans le rocher et cela éveille quelques curiosités chez les touristes.
On recouvre avec des bâches, et après on remet de la terre dessus pour pouvoir réouvrir l'année suivante.
On sait pas ce que c'est, mais par contre, on sait qu'il n'y a pas d'autres trucs ronds comme ça. Ici, c'est toujours non. Des trucs carrés.
Absolument.
C'est totalement différent.
Il y a des trucs ronds, mais pas pareil.
Voilà, il n'y a pas ronds, ça.
Ouais. Là, c'est très très différent, on sait pas ce que c'est. Ouais.
La Libella doit son nom au roi durant le règne duquel une partie des églises fut modifiée ou construite. C'était il y a 800 ans. 4 édifices forcent particulièrement l'admiration, ils sont monolithiques. Il faut les imaginer, un énorme bloc de pierre volcanique séparé du rocher principal, sauf au plancher, et à l'intérieur, une église, de la roche, rien que de la roche. Quand, comment, pourquoi, la Libella garde une part de mystère. Claire Bosque-Thiessé est historienne.
Quand on a commencé, tout le monde pensait qu'il avait été fait en un seul temps, en un seul moment, au début du XIIIe siècle. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible et qu'en fait, il avait été fait en plusieurs étapes et que de fait, on le voit bien tout au long du XXe siècle, il continue à se transformer. Donc il y a une occupation avant que le roi Lalibela investisse le lieu au XIIIe siècle. Et les gens qui sont là ont déjà expérimenté la taille de la roche. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que c'est un apprentissage progressif, puisqu'on commence par des choses simples qui sont approfondies au fur et à mesure avec l'expérience qui est acquise.
Les fouilles actuelles ont commencé en 2008. Elles pourraient permettre d'en savoir un peu plus sur la christianisation de l'Éthiopie qui s'est faite, elle aussi, par étapes sur la longue durée. Les 11 églises de Lalibela sont un lieu bien vivant. Des messes y sont célébrées toute l'année. Des dizaines de milliers de pèlerins y viennent aussi pour Genna, le Noël copte éthiopien, le 7 janvier, comme on l'entend sur cette vidéo touristique postée sur YouTube. Mais dernièrement, c'est une toute autre musique qui s'est fait entendre sur le site. Début octobre 2018, des habitants manifestent et des responsables locaux prennent la parole, comme on l'entend sur ce reportage de la télévision publique ITV. Depuis 10 ans, 4 toits massifs recouvrent 5 des 11 églises. Certaines sont même ainsi protégées de la pluie et du soleil depuis 30 ans. Mais ces toits inquiètent. Kedane Mariam Woldegiorgis, c'est un universitaire qui participe aux fouilles. Il est originaire de Lalibela et a vécu cette manifestation aux premières loges.
Laissez-moi vous donner un exemple. Ils ont fait une église Sainte-Marie en miniature sur laquelle ils ont mis un toit de protection et les filles portaient ces maquettes en disant « S'il vous plaît, mes enfants, libérez-moi de ce fardeau ». Parfois, les habitants de Lalibela, quand il y a du vent et de la pluie, ils viennent veiller sur leurs églises et disent « Ça y est, les églises vont être détruites, elles vont mourir, etc. etc. »
Ces abris massifs qui coiffent 5 églises de Lalibela ont donc été installés en 2008. L'Union européenne a déboursé près de 8 millions d'euros. Car les églises étaient considérées comme en grand danger, il fallait mettre un pansement en quelque sorte. Autre sujet de mécontentement des populations, l'expulsion de certains habitants qui vivaient à proximité immédiate des églises. Un programme financé par la Banque mondiale, mais pensé par le gouvernement éthiopien. Kedane Mariam Woldegiorgis.
The government decided that to make it safe.
Le gouvernement a décidé que pour rendre l'endroit attractif et sûr, il fallait déplacer les gens d'ici. C'est fou. Ils n'avaient rien fait. Ils gardaient ces églises de génération en génération et maintenant, ils vivent là-bas, si loin.
De l'autre côté de la ville.
Oui, de nos jours, ces gens qui ont grandi et prié ici, ils se rassemblent au loin et prient, parce qu'ils ne peuvent plus venir ici, c'est trop loin. Ils n'ont même pas de marché. C'est un impact du tourisme pour moi.
Allez, quittons le nord de l'Éthiopie pour la capitale, Addis Abeba. Depuis son bureau de l'UNESCO, Getou Assefa n'est jamais loin de la ville sainte, classée au patrimoine vivant de l'humanité. Il y a consacré sa thèse, a travaillé pour les institutions gouvernementales du patrimoine et exerce depuis 10 ans ses talents au sein de l'organisation onusienne pour la culture, l'éducation et les sciences.
Il y a des changements et une amélioration dans la situation de Lalibela. Auparavant, le problème était de comprendre la nature du rocher afin de réaliser les réparations appropriées sur les églises. Le travail de restauration des années 20, 30 et 50, bien sûr, a été utile, mais il n'était pas approprié.
Du ciment ou du béton ont été mis sur certains toits d'église ou utilisés pour boucher des fissures. On sait aujourd'hui que ces matériaux sont trop invasifs pour la roche volcanique dans laquelle les édifices ont été excavés. Dans les années 60, des tranchées qui entourent certaines églises ont été nettoyées. On y a déblayé des siècles de sédiments. Résultat, la circulation des eaux de pluie est meilleure, mais cela pourrait fragiliser ce type de roche sensible à l'eau. Et puis en 1986, les autorités éthiopiennes ont posé le premier abri de protection, structure en bois et tôle ondulée sur le dessus. car l'eau s'infiltre dans certains lieux de culte. Un processus achevé en 2008, donc avec la pose des toits massifs de la discorde. Guétou Assefa de l'UNESCO.
You need to have some kind of protective measure.
Il y a besoin de mesures protectives. Jusqu'à ce qu'on étudie et qu'on trouve les bonnes techniques, ce qui a été décidé était de poser un abri au-dessus des églises. C'est temporaire. Ce n'est pas de la restauration, mais seulement des mesures de protection. Il s'agit de stopper l'évolution de la situation en attendant de trouver la solution.
L'UNESCO a commandé un rapport au printemps 2018. Dedans, les experts pointent les failles.
Les toits de protection sont la question la plus problématique affectant à la fois les églises et la communauté. La mission s'accorde à dire qu'ils doivent être retirés. Il est reconnu que c'est un processus complexe qui pourrait prendre plusieurs années. Il est recommandé que différentes étapes soient franchies. D'abord, une inspection précise des toits, du métal et des membranes. Il faut également comparer les études topographiques disponibles avec une inspection du sol au laser 3D afin d'identifier les éventuels risques qu'il y ait des tunnels passant sous certains piliers des abris.
La commission recommande aussi de vérifier si les toits de protection résistent bien au vent. Il semble que cela souffle plus fort que prévu en moyenne ces dernières années sur la Libella, ce qui explique aussi la peur des populations quand le vent s'engouffre de manière bruyante entre les piliers et sous les toits. Aïlou Zeleke a participé à ce rapport. Le directeur de l'Autorité pour la conservation du patrimoine sait qu'il faudra enlever à terme ces protections peu esthétiques et potentiellement dangereuses. Deux églises viennent d'être restaurées à la Libella. Les fissures ont été colmatées avec un enduit spécial apparemment efficace et peu invasif. Une membrane étanche a été posée sur le toit de l'un des édifices rocheux. Cela doit servir d'exemple à Aïlou Zeleke.
C'est un projet sur 3 ans en 2 phases. D'abord restaurer les toits des églises, puis démanteler le toit de l'église Abba Libanos uniquement. Ensuite, on attend 2 saisons, une pluvieuse et une sèche pour voir les effets sur l'église, puis on poursuit sur les autres.
Car après 10 à 30 années passées sous une cloche, un brusque retour du soleil et de l'eau pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et concernant les expulsions de riverains dont le chercheur Kidan et Mariam disait il y a un instant.
C'est fou, ils n'avaient rien fait. Ils gardaient ces églises de génération en génération.
Aïlou Zeleke de l'Autorité du patrimoine explique que ce projet est géré par le ministère de la Culture et non par son autorité.
Nous le soutenons partiellement. Certains étaient des bidonvilles récemment installés après les sécheresses des années 80 dans la région. Nous recommandions de les déplacer, mais nous n'avons pas demandé à ce que les gens occupant les toukouls, les maisons traditionnelles, soient déplacés, car ce sont des maisons historiques dont certaines étaient même là avant les églises.
Le projet est de faire revenir certains habitants. Les toukouls traditionnels pourraient ainsi accueillir des activités d'artisanat. Restaurer, protéger les toits des églises et enlever les protections demande environ 300 millions de birr, soit 9 à 10 millions d'euros. Selon Aïlou Zeleke, son institution dispose déjà de quasiment un quart de cette somme via les autorités locales, régionales et fédérales. Pour le reste, le Premier ministre Abiy Ahmed a demandé l'aide d'Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Paris. Le président français s'est engagé, mais sans que l'on sache s'il s'agit d'argent ou d'assistance technique. Les églises de la Libella pourraient avoir une réponse début mars 2019. Emmanuel Macron est en effet attendu en visite en Éthiopie. La Libella et ses petites sœurs, un patrimoine vivant à protéger. Un grand reportage de Vincent Dublanche et Nathalie Tissot, mis en onde par Pierre Chaffangeon.